Pierre Loti, Fantôme d'Orient, septembre 1880. Minuit, après une fraîche soirée de fin septembre, où déjà un peu d'automne s'annonce, du silence partout. Dans ma maison familiale, paisiblement endormie, je reste seul, éveillé, l'esprit en grand trouble d'anxiété et d'attente. Depuis tantôt 2 heures, je me suis retiré chez moi, disant que j'allais sagement me coucher en prévision de mon départ matinal de demain. Mais le sommeil ne vient pas. Enfermé dans mon logis particulier, errant sans but d'une pièce dans une autre, je reste indéfiniment songeur, comme à la veille de mes grands départs de marin pour des campagnes longues et lointaines, et en dehors de moi-même, je passe une lente revue sinistre de temps accompli, de choses à jamais finies, de visages morts. Cette fois, pourtant, je ne pars que pour un mois, et je ne vais pas plus loin que Constantinople, mais le voyage sera sombre. Il faut bien qu'il se joue, soit joué là-bas une acte inoubliable de cette féerie noire qui a été ma vie, pour que je m'inquiète ainsi de la pensée d'y retourner. Pour que tout ce qui en vient, un mot tartare qui me repasse en tête, une arme d'Orient, une étoffe turque, un parfum, aussitôt me plonge dans une rêverie d'exilé où réapparaît Stamboul. Et ce n'est pas par simple fantaisie d'art non plus, qu'ici mon appartement est pareil à celui de quelque émir d'autrefois, ressemble à une demeure orientale, qui, par sortilège, se serait incrusté au milieu de ma chère maison héréditaire avec ses sceaux dentelés, ses broderies d'or archaïques et ses chaux blanches. Un charme dont je ne me déprendrai jamais m'a été jeté par l'islam au temps où j'habitais la rue du Bosphore, et je subis de 1000 manières ce charme-là, même dans les choses, dans les dessins, dans les couleurs, jusque dans ces vieilles fleurs de rêve qui sont ici naïvement peintes sur les faïences de mes murs. Et surtout, il m'attire, ce charme triste. Il m'attire vers là-bas, où je serai demain. C'est donc vrai que je vais revoir Stamboul. C'est bien réel et prochain, ce pèlerinage auquel depuis 10 ans je rêve. Depuis 10 ans que les hasards de mon métier de maire me promène dans tous les bouts du monde. Jamais je n'ai pu revenir là, jamais. On dirait qu'un sort, un châtiment sans merci m'en est constamment éloigné. Jamais je n'ai pu tenir le solennel serment de retour qu'en partant, j'avais fait à une petite fille circassienne, abîmée dans le suprême désespoir. Et je ne sais plus rien d'elle, qui fut la bien-aimée à qui je croyais m'être donnée jusqu'à l'âme, pour le temps et pour les au-delà infinis. Mais depuis que je l'ai quittée, constamment, je suis poursuivi en sommeil par cette vision, toujours la même. Mon navire fait à Stamboul une relâche inattendue, rapide, furtive, et ce Stamboul, revu en songe, est étrange, agrandi, déformé, sinistre. En bas, je descends à terre avec la fièvre d'arriver jusqu'à elle, et 1000 choses m'en empêchent, et mon anxiété va croissant à mesure que passe l'heure. Puis tout de suite vient le moment de l'appareillage, et alors, de partir sans l'avoir revue et sans avoir seulement rien retrouvé de sa trace égarée, j'éprouve tant d'angoisse que je me réveille. Pour le relire pendant cette soirée d'attente, je vais chercher avec crainte un livre qu'autrefois j'ai publié, par besoin déjà de chanter mon mal, de le crier bien fort au passant quelconque du chemin, et que depuis le jour où il a paru, je n'ai plus jamais osé ouvrir. Pauvre petit livre, très gauchement composé, je pense, mais où j'avais mis toute mon âme d'alors, mon âme en déroute et prise des premiers vertiges mortels, ne pensant pas du reste que je continuerais d'écrire, et qu'on saurait plus tard qui était l'auteur anonyme d'Asiade. Asiade, un nom de femme turque inventé par moi, pour remplacer le véritable, qui était plus joli et plus doux, mais que je ne voulais pas dire. Avec recueillement, comme si je regardais dans une tombe en soulevant la dalle funéraire, je commence à tourner ces pages oubliées, étonnantes pour moi-même, qui les ai jadis écrites. Des enfantillages d'abord qui me font sourire. Un certain loti de conventions auxquelles je m'imaginais ressembler. Et puis, ça et là, des bravades, des blasphèmes. Les uns banals et ressassés, dont j'ai pitié. Les autres si désespérés et si ardents, que c'était encore des prières. Oh oui, le temps jeune où je pouvais blasphémer et prier. Mais tout l'inexprimé qui dormait entre les lignes, entre les mots impuissants et sourds, s'éveille peu à peu, sort de la longue nuit où je l'avais laissé s'évanouir. Ils me réapparaissent, ces insondables dessous de ma vie, de mon amour d'alors, sans lesquels du reste il n'y aurait ni charme profond ni intime angoisse. De temps à autre, pour un souvenir, pour une souffrance que ce livre évoque, je sens cette sorte de secousse glacée ou de frisson d'âme qui vient des grands abîmes entrevus, des grands mystères effleurés. Mystère de préexistence ou je ne sais quoi d'autre ne pouvait même pas être vaguement formulé. Pourquoi l'impression, tout à coup retrouvée d'un rayon de la lune de mai sur cette campagne pierreuse de Salonique, où commença notre histoire, suffit-elle à me donner ce frisson-là? Ou bien la vision d'un soleil de soir d'hiver, entrant dans notre logis clandestin d'Eitoube? Ou bien une phrase dite par elle, qui me revient, avec les intonations de la langue turque et le son de sa jeune voix grave? Ou tout simplement encore l'ombre de tel grand mur désolé, jetant sur un coin de rue solitaire l'oppression d'une mosquée voisine. Ces six petites choses, à peine saisissables, à peine existantes, à quoi donc sont-elles liées dans les tréfonds inconnus de l'âme humaine? À quoi d'antérieur vont-elles se rattacher? À quelles aventures mortes, à quelles poussières encore souffrantes, pour faire ainsi frémir? Et surtout, pourquoi éprouve-t-on ces étanches chocs de rappel, uniquement lorsqu'il s'agit de pays, de lieux ou de temps, que l'amour a touché avec sa baguette de délicieuse et mortelle magie? Beaucoup de feuillets que je tourne vite, sans même les parcourir, ceux où j'avais arrangé, changé les faits avec plus ou moins de maladresse, pour les besoins du livre ou pour mieux dérouter des recherches indiscrètes. Puis voici nos derniers jours d'Eyub, avec le déchirement du départ, tandis que le printemps revenait une fois de plus sur le vieux Stamboul, semant par les rues tristes les fleurs blanches des amandiers. Et maintenant la fin, tout ce passage imaginaire d'Azraël que j'avais ajouté, non pas seulement parce qu'il me semblait avec mes idées d'alors sur les histoires écrites qu'un dénouement était nécessaire, mais bien plutôt parce que j'avais ardemment rêvé pour nous deux de finir ainsi. Oh, je me rappelle, je l'avais composé de mes larmes et de mon sang, ce dénouement-là. Et bien qu'il soit inventé, il a été si près d'être véritable que je le relis ce soir, après tant d'années, avec un trouble que je ne m'attendais plus, un peu comme on relirait, outre-tombe, la page suprême du journal de la vie. Eh bien, la vraie fin reste mystérieuse encore, et je tremble en songeant que je la connaîtrai bientôt, que je pars demain pour aller remuer là-bas toute cette cendre. Quant à la vraie suite, oh, tout simplement la voici. Non, je ne sais plus rien d'elle. Je ne base sur rien cette conviction à la fois douce et infiniment désolée que j'ai de sa mort. Peu à peu, notre histoire d'amour s'est arrêtée, mais sans solution précise. Notre histoire à deux s'est perdue, mais sans finir. Les rares petites lettres qui, les premiers temps, malgré les farouches surveillances, à travers mille difficultés, m'arrivaient encore, ont cessé depuis 7 ans bientôt de m'apporter leurs plaintes étouffées. Finis aussi les lettres d'Ahmed, finis d'une façon inquiétante, devenue d'abord singulière, invraisemblable, avec des confusions de noms et de personnes que lui-même n'aurait jamais faites, avec une persistance à ne jamais me parler d'elle, tellement que je n'ai plus osé questionner ni même répondre, dans la crainte de pièges tendus, de mains étrangères interceptant nos secrets. Et comment, à distance, déchiffrer cette énigme? Quel ami assez dévoué, assez habile et assez sûr, chargé de telles recherches à Stamboul, derrière les grillages des harems? D'année en année, du reste, j'espérais revenir. Et au contraire, les hasards de ma vie me conduisaient ailleurs, en Afrique, en Chine, toujours plus loin. Alors, peu à peu, une sorte d'apaisement de ces souvenirs se faisait en moi-même, sans que je fusse tout à fait coupable. Ils se décoloraient comme sous de la poussière, sous de la cendre de sépulcre. Les nuits seulement, pendant les lucidités du rêve, je retrouvais, sous une forme continuellement la même, mes regrets inatténués. Toujours ces imaginaires retours dans Istanbul au dôme trop haut et trop sombre, profilé sur un grand ciel mort. Toujours ces courses anxieuses, arrêtées malgré moi par des inertes insurmontables et n'aboutissant pas. Et pour finir, toujours ce réveil à l'heure supposée de l'appareillage, avec l'angoisse et le remords d'avoir gaspillé les instants rares qui auraient dû me suffire pour arriver jusqu'à elle. Oh, l'étrange Istanbul, l'oppressante ville spectrale que j'ai vue dans mes nuits. Quelquefois, elle restait lointaine, montrant seulement à l'horizon sa silhouette. Sur quelques plages désertes, je débarquais au crépuscule, apercevant là-bas les minarets et les dômes. À travers des landes funèbres, semées de tombes, je prenais ma course, alourdie par le sommeil. Ou bien c'était dans des marécages, et les joncs, les iris, toutes les plantes de l'eau retardaient ma course, nouaient autour de moi, m'enlaçaient d'entraves. Et l'heure passait et je n'avançais pas. D'autres fois, mon navire de rêve m'amenait jusqu'au pied de la ville sainte. Et c'était dans les rues alors que j'endurais le supplice de ne pas arriver. Dans le dédale sombre et vide, je courais d'abord vers ce quartier haut de Mehmet Fat, qu'habitait son vieux maître. Puis en route, me rappelant tout à coup que je ne pouvais aller directement chez elle, j'hésitais, enfiévré, pendant que les minutes fuyaient, ne sachant plus quelle partie prendre pour retrouver au moins quelqu'un de jadis connu qui me parlerait d'elle, qui saurait me dire si elle était vivante encore et ce qu'elle était devenue, ou bien si elle était morte et dans quel cimetière on l'avait mise. Et mon temps se passait dans l'indécision, en rencontre de gens pareils à des spectres qui me barraient le passage. Et d'autres fois, je gaspillais à des bagatelles mes minutes précieuses, m'attardant, comme au cours de mes promenades de jadis, à des bazars d'armes, m'asseyant dans des cafés pour attendre des personnages que j'envoyais chercher et qui n'arrivaient pas. Ou encore, je me perdais avec une infime terreur dans des quartiers inconnus et déserts, dans des rues de plus en plus étroites, m'emprisonnant comme des pièges au milieu d'une nuit profonde. Et pour finir, arrivait tout à coup l'heure inexorable de l'appareillage, avec l'excès d'inquiétude amenant le réveil. Dans ce rêve obsédant qui, depuis des 10 années, m'est revenu tant de fois, m'est revenu chaque semaine, jamais, jamais je n'ai revu, pas même défiguré ou mort, son jeune visage. Jamais je n'ai obtenu, même d'un fantôme, une indication, si confuse qu'elle fût, sur sa destinée. Et maintenant, le maléfice qui me tenait éloigné semble à la fin rompu. En complète possession de mon activité d'esprit et de vie, je vais revoir en plein jour, en plein soleil, cette ville qui pour moi s'est peu à peu amalgamée à du sombre rêve, au point de me paraître elle-même presque chimérique. À peine puis-je croire que rien ne m'entravera en ce chemin, que j'arriverai au but, que je marcherai dans ces rues sans être ralenti par des inerties de sommeil, que j'interrogerai des êtres vivants et peut-être que je retrouverai la chère trace perdue. Bien réellement, je pars demain et je pars d'une façon aussi banale et positive que pour un voyage quelconque. Mes malles sont en bas, prêtes à être enlevées dans le matin par la voiture qui m'emportera au chemin de fer. Empressé, comme toute ma vie, je traverserai l'Europe très vite, en 3 jours, par le rapide de Paris à Bucarest. En route, cependant, dans les Carpates, je m'arrêterai une semaine au palais d'une reine inconnue. Une halte qui sans doute tiendra un peu du rêve et de l'enchantement avant l'inquiétante étape finale. Et puis, de Varna par la mer Noire, en 24 heures, je gagnerai Constantinople. Mes préparatifs du voyage étant par hasard terminés à l'avance, rien ne trouble la paix de cette veillée de départ, dans tout ce silence et ce sommeil d'alentour. Maintenant, je rassemble ces menus objets plus précieux que j'emporterai sur moi. Des lettres, des amulettes et certaines bagues qu'elle m'avait données. Puis, avec recueillement, je vais ouvrir un tiroir mystérieux caché sous de vieilles broderies orientales. C'est le cercueil où dorment 1000 petites choses rapportées de Youb, des feuillets sur lesquels des mots turcs sont gauchement tracés de son écriture enfantine, des morceaux coupés à l'étoffe de notre divan de brousse, des fantômes de pauvres fleurs qui jadis poussèrent dans les jardins d'Istanbul au printemps. Au plus profond de cette cachette, sous ces débris, je cherche une adresse en caractères arabes qui, le matin de mon départ, fut dictée par Ahmed à l'écrivain public de la place d'Yeni Djami. D'après lui, elle devait me servir de ressource suprême pour la retrouver si je ne revenais qu'après de longues années, ayant épuisé toutes les autres enveloppes à son propre nom, dictée l'avant-veille par Asiadé, tous les moyens de correspondre avec eux. Ah, la voici, cette adresse. Elle a 5 ou 6 lignes. Elle n'en finit plus. Elle donne le nom et le gisement d'une vieille femme arménienne, Anaktar, qui demeure au faubourg de Kasim Pacha, dans une maison basse sur la place d'Aïdali. Et à côté, il y a un marchand de fruits, et en face, il y a un vieux qui vend des babouches. Ahmed jugeait que cette femme ne quitterait certainement jamais sa maison, puisqu'elle en était propriétaire. Jadis, elle l'avait recueillie et soignée par je ne sais quelle maladie pendant son enfance d'orphelin. Elle l'aimait beaucoup, disait-il. Il saurait toujours le prendre, eût-il même changé 20 fois de métier et de demeure. Pauvre petite adresse naïve, qui fut écrite, je me souviens, en plein air, au pied de la mosquée, sous les platanes, par un si clair soleil de printemps et de jeunesse, et qui a dormi près de 10 années dans l'obscurité de ce tiroir, pendant que je courais le monde. Elle a jauni, pâli, pris un air de document ancien, concernant des personnes mortes. Elle me fait mal à revoir si fanée. Il me paraît invraisemblable que je puisse la ramener à la grande lumière d'Orient, et que les mots écrits là me servent jamais à renouer un fil conducteur vers des êtres qui soient encore vivants et réels, qui ne soient pas des mythes de mon imagination, des spectres de mon souvenir. Cette vieille femme arménienne, ce marchand de fruits, ce marchand de tarbouches, pauvres gens quelconques d'un faubourg perdu. Et aussi ce petit quartier antique où je me rappelle vaguement être venu une fois ou deux m'asseoir au crépuscule avec Ahmed sous les treilles centenaires dans le jardin des tristes d'un café turc. Qui sait ce que tout cela a pu devenir? Qui sait ce que j'en retrouverai? 10 années, C'est du reste un recul profond où toutes les images se noient dans une même brume. Aussi, au début, ma rêverie s'était-elle maintenue dans un sentiment d'anxiété encore assourdi, de mélancolie plutôt tranquille. Mais voici qu'un plus grand trouble me vient à cette réflexion subite. Pourtant, il se peut qu'elle vive. Depuis bien longtemps, cette pensée-là ne s'était plus présentée à moi d'une manière assez poignante. En effet, puisque je ne sais pas, puisque je ne suis sûr de rien, il n'est donc pas impossible que bientôt, dans si peu de jours, que j'en frémis comme si ce devait être demain, je me retrouve en sa présence. Oh! Rencontrer de nouveau son regard, que je m'étais habitué à croire mort, son regard de douleur ou de sourire, revoir, comme elle disait, ses yeux face à face, oh l'angoisse, ou l'ivresse en ce moment-là. Et comment serait-elle alors? Comment serait son visage de 28 ans? Dans toute sa beauté de femme, réapparaîtrait-elle la petite fille d'autrefois, svelte aux yeux verts de mer? Ou bien flétrie, qui soit, qui sait, fille à jamais en tant que créature de chair et d'amour. Peu importe du reste, même vieillie et mourante, je l'aime encore. Mais de toute façon, l'instant de cet étrange revoir serait pour nous deux un peu terrible et n'aurait pas de lendemain arrangeable, n'aurait aucune suite pouvant être envisagée sans effroi. Asiade et Loti, ceux d'autrefois du moins, sont bien morts. Ce qui peut rester de même s'est transformé, leur ressemble à peine, sans doute, de visage et d'âme, comme l'affirme ce petit livre enfantin que je viens de refermer. Tous deux sont morts. C'est presque sacrilège de le dire en ce moment, je crois, que je préférerais être sûr de ne trouver là-bas qu'une tombe. Pour elle et pour moi, j'aimerais mieux qu'elle m'eût devancé dans la finale poussière, qui ne pense ni ne souffre. Et alors, j'irai tenir mon serment de retour devant quelqu'une de ces petites bornes funéraires, aux mystiques inscriptions confiantes, qui si paisiblement traversent l'indéfini des durées dans les bois de cyprès. Il fait lourd et il fait inquiétant dans mon logis ce soir. Et tout y a pris l'air lugubre, avec ce seul flambeau qui laisse les fonds dans une obscurité confuse. Çà et là, des tranchants d'acier luisent, des larmes courbes de yatagan, et sur le rouge foncé des tentures murales, des broderies étranges semblent la figuration symbolique de mystères d'Orient qui me seraient profondément incompréhensibles. Quels êtres inconnus, de quelle génération ayant précédé la nôtre, ont fixé dans ces dessins leurs rêves, leurs immuables rêves? Ceux pour qui on a trempé ses armes et tisser ses ors. Quelles chimères avaient-ils? Quels amours, quelles espérances? Je les sens loin de moi comme jamais, ces croyants-là, qui à présent donnent en terre sainte au pied des mosquées blanches. Tout ce décor de vieil Orient est ce soir pour me faire mieux sentir combien sont dissemblables jusqu'à l'âme les différentes races humaines. Et tout ce qu'il y a d'insensé, d'impossible, de funeste à aller chercher de l'amour là-bas. Entre les deux égarés qui s'aiment, reste toujours la barrière des hérédités, des éducations foncièrement différentes, l'abîme des choses qui ne peuvent être comprises. Et il leur faut prévoir qu'ensuite, quand viendra leur fin, ils n'auront seulement pas, pour les bercer ensemble à la dernière heure, le commun souvenir, encore un peu doux, des mirages religieux de leur enfance, ni la même terre après, pour les réunir. Il semble ainsi que le temps et la mort vous séparent davantage, et qu'on en aille se dissoudre dans des néants opposés. Les choses ici sont imprégnées d'odeurs turques, comme dans un sérail, et c'est trop. Ce silence aussi est pesant, et ajoute encore la lourdeur parfumée de l'air, et j'ouvre en grand les fenêtres. Le silence reste le même, augmenté plutôt, prolongé par tout le silence d'alentour. Entre Tymphalène et les longs rayons de la lune, entre aussi une fraîcheur exquise, venue des jardins, venue de la campagne et des grands marais, de par-delà les ormeaux des remparts. Je me sens réveillé par cet air frais, comme d'un songe très sombre, et je me penche à cette fenêtre pour respirer de la vie. Les choses familières du voisinage m'apparaissent alors, aux places de tout temps connues. L'éclairage lunaire leur donne cette nuit je ne sais quoi d'immuablement tranquille, d'un peu irréel aussi, mais elles sont bien les mêmes toujours. Et j'ai vu toute ma vie ces vieux toits, ces pans de murs, ces trouées profondes des jardins, ces masses ombreuses des verdures, et on dirait que tout cela me chante en ce moment quelques petits hymnes mélancoliques de terre natale, me conseillant de ne pas partir. Tant d'autres plus simples que moi n'ont jamais quitté ce pays, ni seulement ce voisinage. Peut-être si j'avais fait comme eux. Mais le senteur monte des jardins, senteur d'humidité, de mousse, de feuilles mortes, qui est particulièrement au premier soir refroidi où des brumes légères se lèvent. Déjà l'automne, encore un été qui s'en va, qui aura passé quand je reviendrai de Stamboul. Mon Dieu, je vais pour ce voyage perdre nos derniers beaux jours d'ici, avec la plus belle floraison de roses sur nos murs, et je ne verrai plus cette année deux chers hommes noirs se promener dans notre cour au dernier resplendissement de septembre. Et qui sait, avec tout l'imprévu de mon métier de mère, quand je retrouverai ces choses. Me voici maintenant indécis, attristé, et presque retenu à cette veille de départ par le regret de ce que j'abandonne. Puis, brusquement, tout change. Dès que je suis rentré dans le logis turc rouge sombre où luisent les armes, tout s'oublie dans l'impatience inquiète de Stamboul, à cause simplement d'une amulette que je suis allé prendre au fond d'un coffre et que j'ai rattachée à mon cou. Depuis longtemps, je ne l'avais plus vue, cette amulette d'Orient. Elle se compose de je ne sais quels minuscules objets mystérieux, enfermés dans un sachet, le sachet cousu assez gauchement par une petite main inhabile, qui pourtant s'était appliquée beaucoup. Il est fait d'un morceau de drap d'or sur lequel une fleur rose est brochée, et ce bout d'étoffe a été choisi, puis coupé dans ce qui restait le plus frais de certaines petites vestes qu'une enfant circassienne avait porté pendant 2 étés de sa vie pour aller à l'école par des sentiers de hautes herbes, le long du Bosphore, au village de Karlija. Je pense qu'il est vieux comme le monde, cet enfantillage attristé qui consiste à échanger entre soi, si l'on aime, de pauvres petites choses datant des premières années de l'existence, et à s'en faire comme des amulettes contre le mutuel oubli. Oh, j'ai connu cela bien des fois, chez des êtres de races très différentes. Et cette uniformité des sentiments humains est hélas pour me faire douter davantage de l'individualité propre des âmes. Quand on y songe, on est tenté, tellement elles semblent pareilles, de ne les regarder que comme des émanations éphémères de ce même tout impersonnel qui est l'espèce indéfiniment renouvelée. Donc, c'est ainsi chez nous tous. Quand l'amour grandit et s'élève jusqu'à des aspirations vers d'éternelles durées, ou quand l'amitié devient assez profonde pour donner l'inquiétude de la fin, on en arrive à jeter les yeux en arrière sur l'enfance de ceux qu'on aime. Le présent paraît insuffisant et court. Alors, comme on sait que l'avenir ne sera peut-être jamais, on essaie de reprendre le passé, qui lui au moins a été. À qui ressemblais-tu quand tu étais toute petite fille? Dis-moi, comment était ton visage, ton costume? À quoi rêvais-tu quand tu étais tout petit garçon? Comment étaient tes allures et tes jeux? Et moi aussi, je tiens à te conter mes premières joies d'enfant et mes premiers chagrins. Même si je veux te faire cadeau de telles petites choses qui viennent de ce temps-là et qui m'étaient très précieuses. Ayoub, dans le mystère, plein de dangers de notre logis turc, enfermés tous deux et inquiets des moindres bruits qui traversaient le lourd silence du dehors, nous passions souvent nos soirées d'hiver à des causeries de ce genre. Et tant de fois dans ma vie, avant de l'avoir connue et après l'avoir presque oubliée, tant de fois j'ai fait de même, hélas, avec d'autres, sous l'influence douce des amitiés ou sous le charme mortel des amours. Oh, l'heure impitoyable encore que tout cela. Et cependant, mon Dieu, il a peut-être eu la plus belle part d'ivresse qu'un homme puisse attendre de la vie. Il devrait peut-être se contenter de mourir après. Celui à qui une petite fille délicieuse a éprouvé le besoin de donner une amulette contre l'oubli et l'a composée avec tant d'amour, en déchirant la plus sacrée de ses reliques d'enfance. Ce talisman de drap d'or a d'ailleurs ce soir produit son effet magique, car voici qu'il a complété étrangement l'évocation commencée par la lecture du livre. Tout à coup, celle qui me l'avait donné est comme présente. Je la vois attachant l'amulette à mon cou, puis levant vers moi un regard où transparaissait toute sa petite âme simple et grave. Son visage est sorti de la nuit avec son expression des derniers jours et l'interrogation suprême de ses yeux. Alors, c'est qu'il y avait peut-être d'un peu factice tout à l'heure, d'un peu hésitant dans mon sentiment pour elle, c'en est allé en nuage avec ce que je m'étais dit à moi-même de raisonnable et de froid, d'égoïste et d'atroce sur les probabilités de sa mort. Oh non, au lieu de cette tombe, que plutôt je la retrouve, elle, n'importe comment et n'importe à quel prix, quand je devrais recommencer à souffrir après. Moi, j'aimerais mieux la revoir. Je ne l'espère pas, mais je sens que je le voudrais, au risque de tout. Pour la retrouver même vieillie, même près de mourir, en ombre encore un peu pensante, qui seulement comprenne que je suis revenu et qui m'entende demander pardon. Ombre qui est encore ses yeux, son expression Dieu, et que je puisse aimer un instant avec le meilleur de mon âme et le plus tendre de ma pitié. Ou même, s'il le faut, que je la retrouve m'ayant oublié, jeune, belle toujours, et jouissant en paix dans l'été de sa vie, dans quelques années de soleil qui était son lot, à elle aussi, bien qu'à toutes les autres créatures, et que je n'avais pas le droit de lui prendre. Ces barrières dont je parlais, ces différences profondes des races et des religions, est-ce que cela existe? Je ne sais plus. Au-dessus de tout passe l'amour, le charme d'un regard qui va au fond d'une âme, au fond d'une autre âme. Et en ce moment, si elle était près d'ici, mais j'irai la chercher par la main, et sans hésitation, avec un sourire, je l'amènerai au milieu de tout ce que j'ai de plus cher et de plus respecté. Toutes mes impressions changeantes de cette soirée se fondent à présent dans ce désir attendri de la revoir, dans cet élan, d'ailleurs presque sans espérance, vers elle.
Chapitre 2. Bucarest, octobre 1880. Environ 15 jours après, à l'autre bout de l'Europe, dans un grand palais de souverain où je suis arrivé la nuit et où je suis seul. Ayant traversé très vite l'Allemagne et l'Autriche, j'ai fait halte d'une semaine chez l'exquise reine de ce pays-ci, dans son château d'été au milieu des Carpates. Je l'ai quitté hier et ici, à Bucarest, où je devais passer la nuit, l'hospitalité m'était préparée au palais royal, inhabité en ce moment. Rien de désolé, de tristement solennel comme un palais vide. Sitôt que je suis seul dans mon appartement, une sorte de silence spécial m'enveloppe. De très loin, ce bruit de voiture qui est encore plus incessant à Bucarest qu'à Paris me vient comme un roulement assourdi d'orage. Je suis séparé de la rue vivante par de grandes places sans passants où veillent des factionnaires et dans le palais même, rien ne bouge. Au château de la Reine, je m'étais laissé malgré moi distraire et charmer par mille choses. Mais ici, c'est ma dernière étape avant Istanbul, qui n'est plus qu'à 24 heures de moi, et jusqu'au matin, j'entends sonner contre les pavés, de plus en plus distinctement comme un crescendo, le pas régulier des sentinelles qui gardent les portes. Mardi 5 octobre, à 4 heures du matin, avant le jour, je quitte le palais royal. Il fait très froid dans les rues de Bucarest. Un landau me mène bride abattue à la gare, au milieu d'un flot de voitures qui roule dans l'obscurité. Le ciel a des teintes glacées d'hiver. Le long de ces rues étroites et nouvelles, qui ressemblent à celles d'une capitale quelconque d'Europe, je ne sais plus trop où j'en suis, ni où ces chevaux m'emportent si vite. En tout cas, je ne me figure pas très nettement que je suis en route pour Istanbul et quand j'y arriverai demain. À 5 heures du matin, en chemin de fer, dans les lourds wagons à couchette de l'Express Orient. Puis vers 8 heures, ce train s'arrête au bord du Danube, qu'il faut franchir en bateau. Très froid toujours, avec une brume légère aux horizons d'une plaine plate, infinie. Mais ici, il y a déjà des costumes d'Orient. Nos bateliers sont coiffés de fez, et sur le fleuve, des barques immobiles le long des berges portent le pavillon turc rouge à croissant blanc. Alors le sentiment me revient, plus poignant tout à coup du but vers lequel je m'achemine, dans cette matinée fraîche d'octobre à travers ses eaux et ses prairies. Sur l'autre rive, nous montons dans un mauvais petit chemin de fer qui doit, dans sa journée, nous faire franchir la Bulgarie. Elle est bien sombre et sauvage par ce jour d'automne, cette Bulgarie en révolution, en guerre. Un long arrêt vers midi à je ne sais quel village au milieu d'une plaine déserte. Il y a là un campement de cavalerie. Les cavaliers sont en tenue de campagne, l'air déterminé, superbe, prêts à se battre demain. Leur musique s'aligne en rond pour nous jouer un air étrange, d'une rare tristesse orientale, quelque chose comme une marche guerrière, lente et obstinée, vers un but qui serait la mort. Et en écoutant, je me sens prêt de pleurer. De plus en plus, cette approche de Istanbul donne pour moi une importance exagérée aux choses quelconques de la route, change leur aspect, me les fait voir comme à travers du crêpe. À mesure que nous avançons vers la mer Noire, l'air se fait moins froid. Les stations, de pauvres villages, de loin en loin, perdus au milieu des régions désolées, commencent à avoir des noms tartares que je puis comprendre, traduire et qui alors me charment, comme si je rentrais dans une patrie. Le petit marché, le petit diable, etc. Des costumes turcs, turbans, vestes de bure soutachées de noir, commencent à se montrer aux barrières, et je prête l'oreille attentivement pour écouter ces gens-là parler la langue aimée dans cet âpre pays triste. Enfin Varna paraît, et je salue les premiers minarets, les premières mosquées. Il fait calme sur la mer Noire quand nous montons dans la barque qui nous ramène au paquebot de Constantinople. L'air est devenu tiède, léger, et Varna, qui se vagne derrière nous, a ses minarets baignés dans la lumière d'or du couchant. Une bruyante table d'hôte sur ce paquebot encombré de touristes, et alors, comme conséquence pour moi, l'oubli momentané dans le brouhaha des voix, dans la banalité des choses qui se disent. Mais après, quand je me promène seul à travers la nuit grise, sur le pont de ce paquebot qui file vers le sud, qui file très vite, sans secousse, sans bruit, comme en glissant, je me rappelle que je suis tout près du but et que j'y arriverai demain. Sur ce navire, je m'étonne, par habitude de métier, de n'avoir pas de quart à faire, d'être au milieu de matelots qui ne m'obéiraient point et à qui je suis inconnu. Rien ne me regarde, ni la manœuvre, ni la route. Cela me semble un peu invraisemblable. Cela suffit dans cette nuit vague à jeter je ne sais quelle incertitude de rêve sur la réalité de ma présence à bord. Personne ne sait ici mon nom, encore moins ce que je vais faire là-bas, et combien cette approche me trouble. Ce retour à Stamboul prend à cette heure je ne sais quel air clandestin et funèbre aussi, dans le silence de plus en plus absolu du navire qui s'endort tout en fuyant. Instinctivement, mes yeux regardent et suivent deux ou trois petits feux très lointains, à peine perceptibles, qui semblent piqués au hasard sur l'immensité neutre, dans le ciel ou dans la mer, on ne sait trop, et qui sont des phares de la côte turque. La mer devient de plus en plus inerte et notre allure toujours plus glissante dans la nuit confuse où l'horizon n'a pas de contour. En songe, mes retours imaginaires se passaient ainsi. Très vite, je glissais dans l'obscurité vers Stamboul. Et ce soir, je finis par avoir presque l'impression de n'être puisqu'un fantôme de moi-même en route nocturne vers le pays que j'ai aimé.